L'enfant éternel, Philippe Forest, vous en êtes l'auteur. Cet enfant, c'est votre petite fille qui a été fauchée par un cancer à l'âge de 4 ans, le 25 avril 1996. Dans le désarroi, peut-être, où vous vous trouviez, de ne jamais se faire totalement comprendre, vous en êtes sans doute venu à revenir, peut-être de manière très bernardienne, à l'écriture, sur un mode quasi obsessionnel, comme l'on arpente un même sillon en tous sens. Donc comment déjà décliner un même sillon, ce rapport avec la perte, avec la disparition d'un enfant de 4 ans, et pourquoi cette volonté s'est-elle affichée au cours des ans ?
Je crois que toutes les œuvres littéraires, en tout cas toutes celles qui m'intéressent, sont construites à partir d'une seule question. Il y a des questions qui sont suffisamment lourdes et qui restent suffisamment sans réponse pour qu'on puisse les travailler tout le temps d'une vie. Je crois que la mort d'un enfant, exemplairement, particulièrement peut-être dans la société moderne, c'est une question de cet ordre. Donc il me semble qu'elle est inépuisable et qu'elle appelle à un travail qui est un travail de méditation et d'écriture constamment repris, même si il est important qu'on ne soit pas dans une répétition mortifère. Donc c'est pourquoi j'essaye de faire en sorte que chacun de mes livres soit comme la reprise des précédents, mais sous une forme relativement nouvelle.
Alors on pourrait parler comme des variations Goldberg, des variations Forest, et notamment de celles que vous prolongez au travers d'écrivains, notamment japonais, qui auraient connu des expériences semblables aux vôtres. Qu'en est-il de ces passerelles que vous avez créées avec le Japon, et pourquoi le choix justement de ce pays ?
Il y a une part de hasard, disons qu'au moment de la maladie de ma fille, j'ai découvert de façon tout à fait banale l'œuvre de Kenzaburo Oe, qui venait d'obtenir le prix Nobel de littérature, et qui était le deuxième écrivain japonais après Kawabata à avoir reçu cette distinction. Et ce qui m'a tout de suite intéressé dans cette œuvre, c'est que c'était une œuvre authentiquement moderne et qui en même temps ne refusait pas le pathétique. Or, je crois que la littérature française, en tout cas la littérature française dont moi j'étais le lecteur, a une grande méfiance à l'égard du pathétique. Donc la littérature japonaise et tout particulièrement l'œuvre de Oe m'a montré qu'il était possible d'affronter ce pathétique et de le faire sous une forme qui ne soit pas régressive ou sentimentale au mauvais sens du terme. Donc cette œuvre a constitué pour moi un modèle, et de fil en aiguille, j'en suis venu à m'intéresser plus largement à la littérature japonaise, et j'ai vu qu'effectivement, il y a dans cette littérature une vraie prise en charge de cette dimension qui m'a intéressé. Et effectivement, dans mon troisième roman, Sarinagara, j'ai essayé de déporter en fait cette problématique du deuil en l'abordant à travers la figure d'un certain nombre d'artistes ou de personnalités japonaises.
Si l'on songe à la femme des sables de Kenzaburo Oe, on voit un couple qui est aux prises avec une situation qui semble inéluctable. Il y a un côté très sisyphe par rapport à cet enlisement successif. Si l'on évoque l'homme boîte, on a également une forclusion, une méfiance aussi par rapport aux mots et la manière de se dire et de se montrer. Qu'est-ce que vous en avez peut-être retenu aussi de cette démarche de Kenzaburo Oe très particulière, qui flirte d'ailleurs aussi avec le surréalisme et le fantastique? Alors pour reprendre effectivement sur la question du récit, donc de l'enfant éternel, Marcel Proust écrivait, je crois que c'est une phrase que vous reprenez, « L'idée que l'on mourra est plus cruelle que mourir, mais moins que l'idée qu'un autre est mort. » Donc sur la mort de soi, la mort de l'autre, qu'est-ce que vous en avez retenu dans cette démarche au travers de l'enfant éternel et de plusieurs romans et essais qui ont suivi?
Je suis content que vous citiez Proust, parce qu'effectivement, il y a dans l'œuvre de Proust quelque chose qui est de cet ordre et qui m'intéresse tout particulièrement. Disons que moi, c'est moins la question de la mort qui me concerne que la question du deuil. Et j'essaye d'aborder cette question dans une optique un peu différente de celle dans laquelle elle est le plus souvent traitée au sein de ce que j'appelle la société de consolation dont tous les enfants sauf un. Si on nous parle beaucoup du travail du deuil, comme si finalement le deuil était une expérience dont il fallait se libérer. Alors moi, je crois au contraire que c'est une expérience à laquelle il faut rester fidèle. Et je crois que la littérature a beaucoup à voir, aussi bien d'ailleurs avec le deuil qu'avec le désir, mais c'est de ce côté-là qu'il faut questionner l'expérience humaine.
Alors, questionner l'expérience humaine, Marie Darrieussecq dans Tom est mort, donc cette fiction, dit qu'elle refuse ce processus de digestion qui est induit par le deuil. D'autre part, notre société, avec la disparition d'un certain nombre de rituels, propose aux morts une sortie plutôt à l'anglaise. Vous en faites notamment écho dans le cadre de l'enfant éternel, avec ces témoignages soi-disant compassionnels de personnes qui ne visent simplement qu'à exorciser une peur qui leur est personnelle. Alors, qu'est-ce que vous en avez retenu justement de ce vécu du deuil à travers l'enfant éternel ?
Je crois que le deuil est quelque chose qui est extraordinairement tabou dans la société actuelle et notamment lorsqu'il touche un enfant. Et donc la personne en deuil, dans les sociétés modernes comme dans les sociétés primitives, est quelqu'un qui se trouve ostracisé et qui est en butte à une certaine forme de violence qui prend soit la forme de l'agressivité pure et simple, soit la forme d'une compassion qui est un peu, disons, carnassière. Donc j'étais très attentif dans L'enfant éternel à cette dimension et j'ai voulu faire un livre qui soit un peu un livre engagé en fait pour essayer de réagir contre cette dénégation de la mort, cette dénégation du deuil dont nous sommes tous plus ou moins les victimes, plus ou moins consentantes.
Il semblerait donc que dans votre récit, en tout cas dans le montage qui est proposé ici par Denis Maillefert, il y ait une ouverture au blanc de la neige et se termine justement dans le blanc du suaire, du linceul. Sur cette image évidemment qui ramène à Blanchot, qui ramène à l'espace même de l'expression littéraire et au fait de trouver un cheminement particulièrement parfois difficile aux mots notamment et aux sensations aussi, qu'en était-il justement sur cette ouverture et cette fermeture au blanc ?
C'est une. En fait, cette image, ce blanc, c'est une image d'abord. Hein. C'est une image dont le livre est sorti et vers laquelle il s'en est retourné. Alors effectivement, comme vous le dites à juste titre, on peut lui donner une signification théorique en allant voir du côté de Blanchot. Pour moi, l'image a primé. Je crois que par ailleurs, je suis un théoricien, si on veut, de la littérature, ou en tout cas un essayiste, enfin quelqu'un qui vit, puisque je suis universitaire, de commenter les textes des autres. Mais je crois que l'écriture romanesque a beaucoup à voir avec le rêve, et donc c'est quelque chose à l'intérieur de quoi il convient d'oublier au moins partiellement tout ce qu'on sait. Et je crois que c'est l'image qui doit primer. Et après, bien sûr, dans un second temps, on peut lui donner toutes les significations théoriques ou critiques que l'on veut.
Alors, sur l'image, justement, sur le fait de retenir une sensation à plusieurs moments du récit de l'enfant éternel, et notamment lorsque cet enfant, d'une certaine manière, n'est plus de plein pied dans la vie, mais n'est pas encore complètement dans la mort, et retarde ce moment. Il y a un petit peu une multitude d'angles, je crois, que vous choisissez, à la fois par l'intervention de la mère, par vous-même, et puis ensuite par une sorte de récit surplombant, mais qui a des qualités sensorielles proches, je dirais, d'une caméra à l'épaule et de sensations extrêmement capillaires. Qu'est-ce qu'il en est, justement, dans ce rapport, en fait, à la manière de retenir un instant, un moment?
Je crois que c'est justement le propre du roman que d'être un art qui, comme je le dis souvent, répond à l'appel du réel, mais aussi prend en charge, disons, la réalité dans ses aspects justement sensoriels, ses détails, même s'il y a de plus trivial, de plus puéril. J'avais à cœur d'abord de ne pas faire un essai et de faire un roman, c'est-à-dire de montrer, de raconter. Je crois que la vie est fondamentalement un roman. C'est pourquoi on ne peut rendre compte de la vie qu'à la manière d'un romancier, me semble-t-il. Et d'où l'appel qui existe dans L'enfant éternel à l'imaginaire des fables, mais également à l'imaginaire littéraire. Je pense que cette histoire, elle est spontanément vécue, comme toute histoire vécue, en relation, disons, avec les récits, ou les fables, oui, qui habitent notre imaginaire.
Alors justement, ces récits, ces fables, comme dans un grenier à mots et à contes dont vous-même la chose s'épuise, puisqu'à un moment donné, je crois que vous n'arrivez plus à citer de texte à cette petite fille. Alors c'est vrai qu'il y a d'une part Peter Pan, peut-être ce syndrome aussi, ce renoncement à quitter l'enfance d'une certaine manière, il y avait ce thème. Il y a Finnegan's Way, et puis il y a effectivement aussi l'histoire de Petit Ours. Alors, qu'en est-il sur ces trois étapes ?
J'ai écrit en fait L'enfant éternel vraiment dans les jours qui ont suivi la mort de ma fille, et donc dans un état d'esprit qui était relativement chaotique, et les choses se sont spontanément assemblées comme ça, avec cette alliance qu'on peut rétrospectivement trouver un peu étrange, effectivement, entre des références qui sont très littéraires et qui sont les miennes, c'est-à-dire Joyce, effectivement, Mallarmé, Hugo, mais également tout cet autre versant de l'imaginaire qui correspond à la culture enfantine, sous ses formes désormais les plus canonique, je dirais, parce que Peter Pan, personne ne conteste que c'est un chef-d'œuvre de la littérature universelle, mais je suis allé voir effectivement aussi du côté de choses que connaissent tous les parents parce qu'ils les lisent à leurs enfants. Ça peut être Petit Ours Brun, ça peut être Caroline, ça peut être également les dessins animés télévisés. Il me semble que il n'y a pas de différence de nature finalement entre ces textes. Il n'y a pas de différence de nature, si je veux forcer le trait, entre Finnegan's Wake et par exemple les mangas japonais, au sens où je crois chacun d'entre nous, qu'il soit adulte ou enfant, éprouve le besoin de se raconter des histoires, non pas pour donner sens à ce qui ne peut pas en avoir, mais au moins pour susciter du langage là où le langage est forcément en défaut. Et donc je sais que la petite fille dans le livre, elle a besoin de ces références-là pour essayer de l'accompagner en quelque sorte dans l'expérience qu'elle vit, tout comme le père ou la mère vont chercher eux des références plus adultes, mais toutes ces références finissent par se mélanger et par prendre sens les unes par rapport aux autres. C'est pour ça qu'en fait il y a deux couples dans le livre. Il y a d'un côté Anatole et Léopoldine, c'est-à-dire le fils de Mallarmé et la fille de Victor Hugo, qui ont tous les deux disparu prématurément, et à ce premier couple répond un autre couple qui est composé de Peter Pan et de Wendy. Ça m'amusait de marier en quelque sorte ces personnages.
Vous l'écrivez dans la pièce, c'est un passage qui a été retenu dans le spectacle signé de Denis Maillefert. Vous le dites en substance, l'année où mourut votre fille est pour vous-même et votre épouse d'alors la plus belle de votre vie. Comment comprendre justement cette assertion en tenant compte du fait qu'évidemment il y a une coprésence à la vie et à la mort qui vient, qui est plus intense que toutes celles qu'on pourra vivre dans une vie dite normale, sans incident.
Oui, exactement. Oui. C'est-à-dire, c'est une phrase qui, je crois, a choqué un certain nombre de lecteurs, tout comme a choqué au début de mon dernier roman, Le Nouvel Amour, une phrase dans laquelle j'introduis le mot de bonheur, en insistant sur sa dimension scandaleuse. Mais c'est cette banalité-là, mais qui, comme la plupart des banalités, renvoie à une vérité, qui est que la proximité de la mort donne à la vie et à l'amour une intensité particulièrement forte. Alors, il ne s'agit pas du tout de valoriser, encore moins d'érotiser la mort, mais il s'agit en quelque sorte de ne pas la laisser complètement victorieuse en insistant sur cette expérience d'amour qu'elle peut également produire.
Alors vous parliez d'érotisme, on en vient peut-être à Bataille, puisqu'effectivement la fidélité à la mort jusque dans l'exacerbation de la vie chez vous fait peut-être écho volontairement à l'érotisme et l'approbation de la vie jusque dans la mort de Bataille. Sur ce rapport quand même avec Georges Bataille.
Pour moi, l'œuvre de Bataille est l'œuvre capitale, c'est-à-dire je ne cesse d'être fasciné par cette œuvre et je ne cesse surtout d'être admiratif de la manière dont elle réussit à produire une pensée qui est l'une des rares à être à la hauteur des expériences les plus radicales que l'être humain puisse rencontrer. Et du côté, effectivement, de cet affrontement avec ce que Bataille appelle l'impossible, alors qu'il prend des formes différentes, c'est aussi bien la jouissance que la mort, et malgré tout une sorte d'interpellation par le bonheur. Je crois que le mot de bonheur est un des mots qui reviennent sous la plume de Bataille, et il a raison.
Alors cette interrogation du bonheur, on le retrouve dans Le Nouvel Amour, votre roman paru en 2007, qui m'a fait songer par certains aspects à cette fameuse tyrannie du bonheur que dénonçait Pascal Bruckner dans un essai demeuré célèbre. Qu'est-ce qu'il en est justement sur ce rapport à une félicité qui semblerait-il pourrait avoir plus d'accomplissement sous une forme interstitielle non recherchée que sur cette espèce de consumérisme ou de marche en avant vers le bonheur que cette société du spectacle, devenue peut-être spectrale par beaucoup d'aspects, nous vend à longueur de journée.
Il m'a semblé très simplement que, bien qu'on écrive beaucoup de romans d'amour, tous ces romans ne correspondaient pas à l'expérience que moi j'avais de ce que c'est que l'amour. Peut-être justement parce que, comme vous le dites, beaucoup de légendes, de mythologies spectaculaires et consuméristes se constituent autour de la vie sexuelle des hommes et des femmes. Donc j'ai voulu dire les choses de manière différente, en essayant de me soustraire autant que possible aux stéréotypes qui sont en vigueur le plus souvent.
Et par rapport justement à un certain nombre de stéréotypes, dans le fait de cette mort en fait qui s'annonce, il y a quelque part quelque chose que vous relevez et qui est intéressante dans le rapport au corps médical. Si on reste sur Mars de Fritz Horn, si on passe aussi par Hervé Guibert, par exemple, ou par Thomas Bernhard d'une autre manière, il y a vraiment une stigmatisation de l'ordre médical, à la fois dans les protocoles qu'il propose, dans les traitements également, qui plus ou moins, en tout cas, comme vous en témoignez, n'ont aucun effet réel, même s'il y a une rémission par certains côtés qui peut être d'ailleurs sous des causalités différentes. Pourquoi vous, d'une certaine manière, vous êtes-vous, non pas retenu, mais n'avez-vous pas fait le procès peut-être attendu à la fois du langage médical, qui est un langage, donc comme le disait très bien Hervé Guibert, nommer une chose, c'est la faire exister. Donc on ne va pas nommer les choses ou les euphémiser, c'est-à-dire qu'on ne va jamais parler de cancer, mais on va utiliser tout un certain nombre de termes périphériques. Alors déjà, dans cette dénégation d'une réalité ou dans cette transposition dans un autre ordre du langage, et puis en même temps, dans ces traitements que, semble-t-il, vous acceptez avec grande facilité. Qu'en est-il ?
Moi, je ne nie pas qu'il y ait une aliénation dont soient victimes les malades. Simplement, il me semble que, oui, j'ai voulu plutôt, sinon prendre le parti des médecins, du moins être attentif à la souffrance dont eux aussi, ils sont les victimes, et dont c'est vrai, ils se défendent parfois sous des formes extrêmement violentes et agressives, en retournant leur propre angoisse sur leurs patients. Donc je ne crois pas idéaliser le corps médical, mais j'ai voulu me soustraire, disons, à une sorte de pensée magique, au sens péjoratif du terme, qui est souvent développée par les malades et qui veulent à tout prix, en quelque sorte, qu'à leur maladie, il y ait une cause, qu'à leur maladie, il y ait des coupables, et qui font du même coup des médecins, en quelque sorte, des boucs émissaires, en quelque sorte, d'une souffrance dont personne, sinon Dieu lui-même, a supposé qu'il existe et est responsable. Moi, ce qui m'a beaucoup gêné, ce qui fait que je suis très, très hostile, pour le dire franchement, à un livre comme celui de Fritz Horn Mars, c'est qu'il prend l'expérience de la maladie pour lui attribuer une signification sacrificielle, à laquelle il est important, moi je crois, de ne pas consentir. En gros, ce que dit Fritz Horn, c'est qu'il est tombé malade du cancer et qu'il en est mort parce qu'il était aliéné dans sa vie en tant que produit d'une certaine bourgeoisie, etc. Les gens qui ont le cancer, notamment, veulent souvent qu'il y ait une cause, et parfois une cause psychosomatique, à leur cancer. Or, le cancer est une maladie qui frappe selon des causalités qui sont diverses, mais dont personne n'a jamais pu établir qu'elles étaient psychosomatiques. La maladie n'est pas une punition que subit l'individu. Moi, je préfère de beaucoup au discours de Fritz Horn le grand livre de Susan Sontag, La maladie comme métaphore, dans lequel elle explique justement que la barbarie commence à partir du moment où on veut donner du sens à la maladie.
Mais Susan Sontag, dans Le cancer et ses métaphores et le sida et ses métaphores, dit quand même que dans des techniques de visualisation de la maladie, même si celle-ci n'était pas maîtrisée par Fritz Horn, on peut représenter cette maladie sous la forme, effectivement, comme chez vous, de l'enfant éternel, d'un principe du mal qui est combattu par une héroïne de manga, mais aussi dans le cadre de Fritz Horn, par rapport à une société bourgeoise dans laquelle il étouffait, il se trouvait corseté, et que du fait d'emblématiser, d'incarner, il y aurait peut-être un certain nombre d'anticorps, ou en tout cas les personnes renforceraient un système de défense, ce qui est le cas aussi dans des groupes par rapport au sida, et ce qui a été beaucoup popularisé. Quelle est votre vision par rapport à ça, justement, cette vision quand même de fantasmer un petit peu un imaginaire dans lequel on peut incarner un élément maléfique contre lequel se battre? Parce que contre le cancer, il n'y a pas d'ennemi. Le problème, c'est que l'ennemi se dérobe.
Chacun a le droit d'inventer les fables qui lui servent à survivre. Et en ce sens, je n'ai pas à juger celle que, effectivement, Fritz Horn a inventée pour lui-même, sauf à dire que toutes les métaphores ne se valent pas, et que certaines produisent des effets, on peut même dire politiques, avec lesquels on peut ne pas être en accord. Parce que à partir du moment où vous dites que le cancer est une maladie que le patient développe de lui-même pour exercer sur son propre corps une sorte de processus de mortification, vous rendez le malade donc responsable en quelque sorte de la souffrance qu'il subit, ce qui me semble quand même poser un certain nombre de problèmes moraux.
Dans Sarinagara, vous citez le propos de Heidegger, garder la mémoire signifie se confier à l'oubli. Alors on n'est pas dans un sujet bac philo, mais c'est vrai que c'est une phrase qui peut être tout de même comprise de manière différente. Il est vrai qu'un certain nombre d'historiens, dont Paul Venn notamment, ont dit que la mémoire, c'était aussi l'oubli en histoire et qu'il fallait tenir compte de cette dimension. Comment comprenez-vous cette phrase « garder la mémoire signifie se confier à l'oubli » qui revient souvent?
À vrai dire, je ne la comprends pas. Et c'est un peu pour ça que j'en ai fait le point terminal de Sarinagara. Elle a une telle valeur de paradoxe. Effectivement, on peut l'interpréter de différentes manières, notamment en se situant dans le champ de la mémoire collective, etc. Mais elle conserve, quelles que soient les interprétations qu'on en donne, elle conserve sa valeur de paradoxe et d'énigme. Pour moi, disons que c'est lié au cheminement que raconte Sarinagara, c'est-à-dire qu'effectivement, j'avais oublié un certain nombre de choses qui me sont revenues lorsque je suis allé au Japon, et plus précisément dans la baie de Kobe, et c'est à ce moment-là que j'ai compris ce qu'avait été la raison de mon voyage. Je peux peut-être pas en dire plus, parce qu'en fait, il y a malgré tout une sorte de suspense dans Sarinagara, et donc il est lié à cette révélation, entre guillemets, que connaît le narrateur du roman dans la baie de Kobe.
Alors, cette transposition sur les planches de l'Enfant éternel rejoignait dans sa préparation une controverse qui a eu lieu donc en été 2007 entre deux auteurs, Souffrir, comprendre, vivre et écrire, peut-être ce qui rejoint à la fois l'ouvrage de Marie-Darieux Seck-Philippe paru en 1995, Tom est mort paru en 2007 et L'Enfant éternel, prix Femina 1997, c'est que peut-être ces récits demeurent relativement ouverts. Il n'y a pas véritablement de dénouement, il n'y a pas non plus un examen naturaliste des causes de souffrance, il n'y a même pas nécessairement une anamnèse non plus dans certains cas. Ou même, disons, des dysfonctionnements, des dérédictions chez des êtres endeuillés, en fuite ou délaissés, mais c'est plutôt la tentative de ces trois auteurs de cerner l'effet que produisent les disparitions sur les modes de perception des personnages, notamment. C'est une des choses. Qu'est-ce que vous avez retenu, justement, de Philippe, de Marie-Darieux Seck et de Tom est mort, de Camille Laurence, et puis de Tom est mort de Marie-Darieux Seck, dans un cas, donc, je dirais une fiction autobiographique, quoique le terme est très impropre, et puis de l'autre, une fiction.
J'étais un peu mal à l'aise, disons, dans cette polémique à laquelle je me suis trouvé inévitablement lié et dans laquelle je me suis trouvé un peu impliqué. Disons, si le livre de Marie-Darieux Seck avait été vraiment très bon ou très mauvais, je crois que le problème ne se serait pas posé. Il était suffisamment bon pour que Marie-Darieux Seck ait évité un certain nombre de travers que connaissent d'autres livres hein, qui caricaturent de façon absolument scandaleuse l'expérience du deuil. Mais en même temps, il n'était pas assez bon peut-être pour que le livre s'impose comme totalement justifié et au-delà de toutes les critiques qu'on aurait pu lui adresser. Je pense qu'il manquait au livre de Marie-Darieux Seck une radicalité qui peut-être vient effectivement de l'expérience. Non pas qu'il faille forcément avoir perdu un enfant pour écrire sur la mort d'un enfant, mais en tout cas, si je veux parler trivialement, il semble que ça aide quand même.
Alors, en se défendant dans cette controverse donc, qui portait sur le plagiat psychologique, accusation portée par Camille Laurence à Marie-Darieux Seck, Camille Laurence parlait de l'empirisme, de l'expérience de la douleur réelle, et disait « Depuis 1994, je ne parle que de là. » Donc depuis Philippe, depuis cette perte, tout n'est que variation, même si c'était en substance ces termes. Est-ce que ça, vous pouvez le saisir ou le comprendre dans votre démarche? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression, alors peut-être plus chez vous que chez Camille Laurence, que sous forme d'essai ou de roman, directement ou par des études d'écrivains interposées, vous n'avez cessé, comme on l'a dit, de faire retour à cette mort, à cet effroi, à ce chagrin, mais aussi à une certaine forme de renaissance, en deux mots. Justement, qu'en est-il par rapport au côté presque thaumaturgique que pourrait avoir cette écriture?
Moi, je me sens en sympathie avec la démarche de Camille Laurence, même si je ne l'aurais pas suivie sur le terrain de certaines des critiques qu'elle a adressées à Marie Dariussecq, notamment la notion de plagiat psychique me semble tout à fait dénuée de sens. Oui, Renaissance, disons que moi j'émets un certain nombre de réserves, voire de critiques à l'égard de la notion de catharsis en littérature, parce que la plupart des gens, auteurs ou lecteurs, voudraient que écrire sur la mort et sur le deuil permette justement de faire... De faire l'oubli sur l'expérience qu'on a vécue. Alors pour moi, au contraire, il s'agit au contraire de rappeler perpétuellement à la vie cette expérience-là. Mais en même temps, je ne peux pas nier le fait que cette reprise perpétuelle, elle vise aussi à tourner perpétuellement l'œuvre et l'existence vers un possible lendemain. Donc je le dis dans Tous les enfants sauf un, en citant un texte de Derrida, où il compare l'écriture à la fois à un poison et à un contrepoison. Je crois que toutes les métaphores ambivalentes comme ça sont très communes parce qu'elles permettent de dire une chose et son contraire, mais il me semble difficile de faire l'économie de cette ambivalence-là. C'est-à-dire, je crois qu'effectivement, l'écriture est à la fois de l'ordre du poison et du contrepoison. Et il est important que ces deux dimensions-là soient présentes.
Alors, dernière chose, Denis Maillefert, dans son adaptation de L'enfant éternel, insistait auprès de nous sur le fait que, pour lui, il était indispensable de mettre ce récit sous le regard de la mère, le double regard, puisqu'il est renvoyé par une série de parois d'images, on est proche de l'installation plasticienne, et puis donc qu'elle, il voyait plutôt son récit ou son intervention dans un présent, quitte à ce que ce présent soit éternel ou qu'il y ait un temps suspendu, et que le personnage donc du père, joué par Pierre Isaïe Duc, donc vous-même, était plutôt dans l'ordre de la réminiscence. Alors, qu'est-ce qu'il en est justement par rapport à ces registres de récits? C'est pas nécessairement ce qui peut se dégager à la lecture de votre ouvrage, mais qu'en avez-vous pensé justement de ce double regard?
Non, j'ai pensé que c'était une transposition très très pertinente. En fait, le livre dans lequel je traite plutôt de cette confrontation, voire de cet affrontement entre le point de vue masculin et féminin, le point de vue paternel et le point de vue maternel, c'est le livre suivant, Toute la nuit. Donc il me semblait intéressant d'emprunter cette problématique au deuxième livre pour la faire jouer à l'intérieur du premier. Et la posture silencieuse de la mère... en tant qu'elle conduit à la prise de parole, parce que finalement c'est elle qui a le dernier mot, me semble juste, quoi. J'ai toujours voulu faire en sorte que le narrateur de mes livres n'en soit pas le héros, mais plutôt le témoin, et qu'il s'efface, je crois que c'est le cas dans tous mes livres, de manière à ce que la parole passe enfin à quelqu'un d'autre, en l'occurrence une fille ou une femme.
L'aspect de transmission, est-ce qu'il est aussi au cœur de vos ouvrages, justement, le fait qu'en reste-t-il? Surtout que là, elle est un tout petit peu biaisée, dans le sens où, quand j'avais notamment rencontré Israël Horowitz, lui, il me disait, puisqu'il a écrit beaucoup d'ouvrages autour de son père, avec lequel il a eu une relation extrêmement torturée, lorsque votre père meurt, ben, c'est dans l'ordre biologique, vous êtes on the front line, donc en première ligne pour la suite. Là, c'est l'inverse qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'il en est de ce rapport, justement à la mort, au deuil, mais au travers de quelqu'un qui, dans un cours entre guillemets naturel, ne devrait pas partir à ce moment.
Disons que le fait de perdre un enfant produit des conséquences assez étranges sur ce terrain-là, notamment dans la perception du temps, parce que l'horizon, j'allais dire biologique, vers lequel chacun d'entre nous se projette, soit concrètement en ayant des enfants, soit imaginairement, disons, en trouvant sa place dans la succession des générations, tout ça, cet horizon-là, finalement disparaît, s'évanouit. Et donc, ce que vivent tous mes personnages dans mes romans, c'est une sorte d'immobilisation du temps, dans la mesure où cette projection vers le futur n'est plus possible. Mais en même temps, il y a autre chose dont je parle dans L'enfant éternel et qui me semble juste, pour autant que je puisse en juger, c'est qu'il y a un renversement généalogique qui s'opère, c'est-à-dire je dis dans L'enfant éternel que je suis né de ma fille d'une certaine manière aussi, Et c'est à elle, donc, dans une certaine mesure, que tous les textes sont adressés. Comme si elle en était, malgré tout, imaginairement, bien sûr, la destinataire.
Sur cet aspect de naissance, je crois qu'il y a un passage qui a un petit peu choqué certains lecteurs à l'époque. C'était notamment le passage qui stigmatisait, même si le mot est un peu fort, le fait que certaines personnes dans votre entourage disaient, comme d'une poupée cassée, celle-ci ne fonctionne plus, donc pourquoi ne pas refaire un enfant ? C'est vrai que la réaction presque, même parfois inconsciente, de certains couples, c'est soit de se séparer, d'aller avec une autre personne et tout de suite refaire un enfant, soit en ayant passé cette sorte de rite ordalique qui met en question à la fois le devenir de la personne, sa vie, sa mort, etc., de tout de suite recréer après, non pas nécessairement pour un oubli, parce que c'est souvent des relations très problématiques avec ses enfants, entre guillemets, non pas de substitution, mais qui parfois le sont. Alors pourquoi justement s'être interrogé sur ce fait de, quelque part, de recouvrir un enfant par un autre en le matérialisant directement plutôt que ça soit une espèce de chimère de papier, d'une certaine manière, dans un théâtre de feuilles blanches. Quel est votre regard par rapport à ça ?
Disons, j'ai aucun jugement à porter sur la façon dont les uns et les autres se tirent de cette situation. Et donc, je comprends tout à fait qu'on puisse avoir un autre enfant immédiatement après la perte d'un enfant, ou qu'on puisse se séparer et refaire sa vie, comme on dit, autant que ça soit possible. Et vous avez raison de souligner que c'est souvent, et presque toujours d'ailleurs, très difficile, aussi bien pour les parents que pour les enfants qui naissent après un petit garçon ou une petite fille qui aurait prématurément disparu. Donc j'ai pas de jugement moral, surtout pas à porter là-dessus. En revanche, je ne me gêne pas pour porter un jugement moral, disons, sur le discours qui spontanément surgit effectivement chez certains individus et qui transforme cette possibilité d'un nouvel enfant en un véritable impératif. Faites un nouvel enfant, et avec cette idée donc qui est présente d'ailleurs dans cette vulgate du travail du deuil, que les enfants et les individus sont substituables, donc on peut les remplacer les uns par les autres. Mais le désir d'enfant est devenu quelque chose d'extraordinairement prégnant et pesant dans la société actuelle. Et on voit ça pas simplement du côté de l'expérience du deuil, mais pour tout ce qui touche à la stérilité, pour tout ce qui touche ce qu'on appelle les familles recomposées ou à l'homoparentalité, etc. C'est comme si la société adressait une sorte de commandement à tous les individus, commandement qui dirait: pour vous accomplir, il est nécessaire que vous ayez un enfant. Il peut être intéressant de questionner justement cette idéologie de la substituabilité des êtres qui se trouve souvent derrière ce désir d'enfant.
Deux dernières petites choses. Vivre, c'est perdre. Et le deuil renvoie aux nombreuses formes de renoncement et d'oubli auxquels nous sommes contraints. Est-ce que vous vouliez suspendre justement cette perte ou l'interroger d'une autre manière au travers de ces récits? Si je prends un storytelling récent, mais au cinéma, Six Feet Under, au départ, la première saison de cette série qui raconte une histoire de croque-mort était vraiment centrée sur les rites funéraires et ce que ça signifiait. Et puis après, il y avait comme une espèce d'escamotage, comme on a au théâtre, c'est-à-dire qu'on se concentrait sur des histoires périphériques, qui ramenaient toujours au même lieu, mais qui n'avaient plus vraiment ce rapport ontologique, comme s'il fallait renouveler le pitch ou le storyboard de la chose. Vous, par contre, vous n'avez pas nécessairement cherché à renouveler, vous êtes toujours revenu à cette matrice. Sur le côté vivre, c'est perdre aussi une partie de soi, peut-être l'enfant qui était en soi ou qui est toujours en soi.
Oui, c'est vrai, oui, c'est-à-dire, c'est très. Enfin, j'essaye dans mes différents romans de jouer justement de ces associations, et c'est vrai que par exemple au début de Sarinagara, le livre commence par un rêve d'enfant, et on ne sait plus très bien de quel enfant il s'agit, si c'est le père lorsqu'il était enfant ou l'enfant qui l'a perdu. Mais certains psychanalystes posent l'hypothèse qu'on serait rentré dans une société caractérisée par une nouvelle économie psychique, à l'intérieur de laquelle justement cette expérience de la perte, par la castration, comme disent les psychanalystes dans leur langage, serait en passe de disparaître. Moi, je crois que fondamentalement, enfin, comme vous le disiez, être humain, c'est perdre. Donc il n'y a pas à escamoter cette expérience de la perte, mais il y a au contraire à l'affronter. Et ça concerne non seulement le deuil, mais aussi le désir, parce que le désir, c'est aussi une expérience du manque. Qui on désire, c'est la personne qui nous échappe. Et notamment dans Le Nouvel Amour, j'ai essayé de montrer à partir d'un exemple concret, qui est donc en relation avec ce que j'ai moi-même vécu, comment cette expérience du désir, sous ses formes les plus érotiques, et l'expérience du deuil, sous la forme radicale donc de la perte d'un enfant, peuvent se mettre à résonner l'une par rapport à l'autre. Mais dans les deux cas, deuil ou désir, oui, c'est bien de perte qu'il s'agit. Et paradoxalement, c'est dans la perte que se trouve la part la plus puissante de ce qui fait l'humanité en tant qu'elle est liée au fait d'aimer.
Alors, ce que pose une dernière chose Nouvel Amour, c'est comment vivre, ou l'impossibilité peut-être de vivre, la perte à deux sur le long terme, qui a le je dirais pas le monopole, mais en tout cas la préséance par rapport au fait de dire et d'à la fois d'activer le souvenir, mais de réactiver le présent au travers de cela. Vous en parlez dans le livre, puisqu'effectivement, la personne qui vous accompagnait à l'époque, eh bien, vous a quitté. Je crois qu'il y a eu aussi des propos parfois, alors je cite de mémoire, mais qui étaient un petit peu durs, c'est-à-dire de dire peut-être que vous faisiez, ou certains vous l'ont reproché, de faire votre miel littéraire de cette expérience, et pourquoi d'ailleurs ne pas partir de soi. Beaucoup l'ont fait avant vous et sans doute après. Mais qu'est-ce qu'il en est justement sur cette manière, peut-être, je n'irais pas nécessairement égotiste, mais le fait qu'on est... On a l'impression, en tout cas dans Nouvel Amour, même si ce n'est pas explicitement dit, qu'on n'a plus du tout la même perception d'une même histoire et qu'il y a quelque part, comme je ne sais pas une concurrence, mais le fait qu'à un moment donné, il faut se séparer parce que c'est plus possible, en fait, à vivre de cette manière-là. On n'a pas la même intensité, la même présence à la chose. Qu'en est-il, justement, face au deuil et à la perte ?
D'abord, pour revenir sur l'objection que vous signaliez et qui, effectivement, est parfois faite, moi, je la trouve un peu énorme quand même, parce que si on va dans cette direction-là, ça signifierait que seuls ont droit de parler de la perte d'un enfant les gens qui ne l'ont pas vécu. Or, je veux bien que les gens qui n'ont pas vécu cette perte, comme par exemple Marie Dariussec, fassent des livres sur un tel thème, mais je vois mal au nom de quoi on priverait ceux qui ont vécu cette expérience-là d'en parler. Je crois que ce type de réaction-là, il traduit justement cette grande violence dénégatrice dont la société fait preuve à l'égard de gens qui témoignent de quelque chose dont elle ne veut pas entendre parler. Hein. Alors pour ce qui est du Nouvel Amour, c'est plus compliqué que ça, parce qu'en fait le personnage du père et de la mère ne se sépare pas tout à fait, ou à vrai dire le livre se termine sur une sorte de fausse fin qui rend possible toutes les interprétations, et qui n'est pas seulement une pirouette, encore que ce soit peut-être une aussi, mais qui tient à l'indécision même de la situation. Le Nouvel Amour, c'est paradoxalement un livre dont le pitch pourrait être une histoire d'adultère, mais qui en fait est plus un livre sur la fidélité que sur l'infidélité. Et le problème du héros, c'est qu'il est pris dans, et pas simplement du héros, mais des femmes qui sont concernées par le récit aussi, c'est qu'ils sont tous pris dans des réseaux de fidélité contradictoires. S'ils étaient infidèles, tout serait simple, mais ils ne le sont pas, quoi.
Juste une ultime chose, Camille Laurence cite en préface de Philippe un texte d'Aragon, disant en substance « souffrir, c'est vivre ». Il y a une sorte de vraiment théodicée de la souffrance, et d'ailleurs dans la controverse avec Marie Dariussec, elle l'a dit, si on ne l'a pas vécu mais vraiment intimement ressenti, il y avait presque quelque chose de christique même dans cette manière d'affirmer la chose. Qu'est-ce qu'il en est, vous, sur ce rapport justement à une souffrance, à un vécu, souffrir, c'est vivre, et seuls ceux qui l'ont, et qui sont vraiment passés par là, peuvent en parler, d'une certaine manière, ont une légitimité.
Ouais, je crois que ce à quoi m'amène cette polémique, et au-delà de cette polémique, parce que ça fait quand même 10 ans que j'écris sur ces questions-là, c'est à la conviction que un texte doit quand même être gagé sur le réel. Il y a un exemple quand même qui est très intéressant dans l'actualité littéraire récente, c'est la découverte qui vient d'être faite que ce best-seller « Survivre parmi les loups » était en fait une imposture totale. Donc on voit bien que c'est pas simplement le jugement éthique qui change sur l'auteur, c'est le jugement esthétique également qui porte sur l'œuvre qu'il a produite. Si on apprenait que Primo Levi n'a jamais été en camp de concentration, par exemple. Bien sûr, le jugement moral qu'on porte sur l'homme s'en trouvera modifié, mais également le jugement esthétique qu'on porte, par exemple, sur le système périodique ou sur si c'est un homme. Donc je crois que c'est important de garder cette idée, effectivement, que le texte doit être gagé sur le réel. Maintenant, avec toute l'admiration que j'ai pour Aragon, qui est un auteur que je cite, et d'ailleurs systématiquement dans Le Nouvel Amour, il faut aussi être prudent à l'égard de cette lecture sacrificielle, parce que je citerai Bataille. Hein, Bataille compare justement l'art et la littérature, le roman tout particulièrement, au sacrifice. Mais il insiste bien que sur le fait que ce sacrifice est un simulacre, c'est un sacrifice auquel on survit. Donc il s'agit à la fois de s'exposer effectivement à la souffrance, mais en même temps on le fait sur un mode tel que à cette souffrance on ne se trouve pas emporté. Le vrai héros de mes livres, ça n'est pas l'écrivain. Le vrai héros de mes livres, c'est la petite fille. Elle est. Pour reprendre la terminologie de Primo Levi, elle est une naufragée, alors que l'écrivain, lui, est toujours un rescapé. C'est pourquoi l'activité d'écrire est une activité fondamentalement coupable, parce qu'elle met en relation avec la souffrance, mais sur un mode ambivalent qui permet à l'écrivain de ne pas succomber au mécanisme sacrificiel qu'il met en place.
Juste pour la question de Primo Levi le dit lui-même dans ses entretiens, notamment, qu'il avait une position relativement privilégiée dans ce camp de concentration en étant médecin, mais que d'autre part, l'écriture n'est pas venue tout de suite après l'expérience, tandis que vous, alors par rapport à ce traumatisme, entre guillemets, à cette disparition, c'est venu immédiatement. Quels sont les risques, justement, selon vous, les défis que pose une écriture comme ça à chaud par rapport au réel?
Je pense que la violence de l'expérience est telle qu'il fallait qu'elle soit retournée en quelque sorte immédiatement, de manière à ne pas à succomber à cette violence-là. Ce que je raconte en fait dans toute la nuit, en montrant comment la confection du livre permet au personnage de ne pas succomber à la tentation du suicide, à laquelle je pense un certain nombre de parents cèdent. Encore qu'il y a une très grande discrétion sur ce point et que je n'ai jamais lu vraiment d'études ou de textes qui permettent de me faire une idée précise de ce que je me contente d'imaginer. Mais alors après, qu'est-ce que ça produit en termes littéraires? Je ne sais pas, parce qu'en fait, moi, je ne relis jamais les livres que j'ai écrits et je suis absolument incapable de porter un jugement esthétique sur ces livres. Ce qui fait que, par exemple, c'était très étrange pour moi de voir revenir à moi le texte de L'Enfant éternel, dans la mesure où ça fait vraiment 10 ans que je n'ai pas ouvert ce livre. Donc est-ce qu'écrire à chaud permet de produire de la bonne littérature? Je n'en sais rien, mais à vrai dire, je n'étais absolument pas dans ce souci-là lorsque j'ai écrit dans L'Enfant éternel. Je voulais faire un geste, et ce geste, il était impératif que je le fasse tout de suite. Alors après, ce geste se fossilise et devient un livre, mais apparemment, ce livre continue à avoir quelque chose en lui qui parle aux gens et qui les émeut. Et je crois que c'est tout à fait indépendamment des éventuelles qualités littéraires du texte. Je pense que les gens sont essentiellement sensibles aux gestes que ce texte continue à constituer et dont ils sentent bien qu'il s'adresse à eux. Est-ce que c'est de la littérature ou pas? À vrai dire, moi je crois que la littérature c'est ça et seulement ça.
Dernière, ultime chose vraiment, Walter Benjamin disait que le rapport au passé, le rapport à la mémoire, c'était vraiment de tout le temps réinterroger, de tout le temps reposer les mêmes questions par rapport au réel, par rapport à une époque historique, par rapport à un vécu, comme on retourne la terre. Et il s'opposait beaucoup à Kierkegaard, je crois que c'est une citation qu'il y a dans un de vos ouvrages, qui disait « à quoi bon rappeler le passé qui ne peut devenir un présent ?» Donc entre le rappel du passé qui ne peut devenir un présent et la nécessité de retourner toujours les mêmes questions, où est-ce que vous vous situez un petit peu?
Ce qui m'a beaucoup séduit chez Kierkegaard, en fait, c'est cette notion de reprise qui se trouve dans un de ses livres, et il définit la reprise comme un souvenir en avant. Et il oppose le souvenir, la reprise, donc justement la réminiscence. Dans la réminiscence, qu'elle soit platonicienne ou autre, il y a pour Kierkegaard quelque chose qui est fondamentalement d'un mouvement régressif ou nostalgique, alors qu'au contraire, dans la reprise, il y a cette espèce de projection perpétuelle vers demain qui fait de chaque nouveau jour une réactivation en quelque sorte de l'épreuve. Et moi, c'est un concept, si tant est que ce soit un concept, qui me séduit.
Philippe Forest, merci infiniment de votre passion.